Hier, les collègues Martin McGuire, Danny Dubé, ont observé plusieurs dépisteurs du Lightning de Tampa Bay, trois dépisteurs. Et d'ailleurs, ils en ont fait mention pendant le reportage du match, dans cette défaite de 4-1 face aux Bruins de Boston. Justement, pour en parler, il est en direct de Pittsburgh. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
Allô, Jérémy.
Bon, Martin, avant qu'on se parle de cette observation que vous avez faite avec les dépisteurs du Lightning de Tampa Bay, parce que j'ai trouvé ça fort intéressant, d'ailleurs, et ça sera le sujet de conversation de notre soirée ce soir. Je veux savoir, aujourd'hui, il n'y avait pas d'entraînement chez les Canadiens. Ça vous a permis d'aller rencontrer Sid the Kid, qui, lui, a vécu des moments incroyables, voilà maintenant 10 ans?
Oui, écoute, le 10e anniversaire des Jeux olympiques de Vancouver, ça a commencé en février 2010. Ça a été un moment très important, les Jeux d'hiver au pays. Ça a été, en tout cas, je fais une parenthèse, là, je ne vais pas parler de moi à la première personne du singulier, j'aime pas ça, mais je peux te dire une chose, que cet événement-là, pour moi, a été une expérience professionnelle tout à fait extraordinaire. Danny et moi, on présentait les matchs du tournoi de hockey, principalement ceux du Canada, mais de quelques autres pays à la radio. On a fait également la finale des femmes quand les Canadiennes ont gagné. C'était vraiment unique, l'atmosphère à Vancouver autour des Jeux olympiques. À un moment donné, on avait des températures au centre-ville de 16-17 degrés avec un soleil extraordinaire. Ça a donné un décorum tout à fait particulier. Mais avec Sidney Crosby, on a parlé bien sûr du tournoi de hockey. C'était important. Il y avait énormément de pression autour de l'équipe du Canada parce que tu t'attends à gagner la médaille d'or lorsque tu es au pays. Alors, on va écouter Sidney Crosby qui nous parle de cet événement-là. Et c'est un événement qui l'a marqué. D'autant plus que c'est lui qui a marqué le fameux but qui a donné la victoire en prolongation de victoire de 3-2 sur les Américains avec Roberto Luongo devant le filet. Alors voici Sidney Crosby sur ses souvenirs de Vancouver 2010.
Just an unbelievable memory. I mean, when I think back, it's crazy and scary to think that it's been 10 years. I think when I think back, just an amazing experience at the Olympics, you know, being Canadian in Canada, but to have it finish off that way was pretty special. Being in Canada and 30 seconds away from winning it in regulation and then have them tie it up and, you know, just as, you know, a kid growing up watching the Olympics, you know, dreaming of playing for Team Canada and to be, you know, part of that whole experience, just the way it all worked out was really special. And I mean, you know, if we won a gold medal, you know, regardless of the outcome, it would have been special in its own right. But, you know, to finish that way, I think that's every kid's dream.
Alors, Crosby dit c'est le rêve de tout jeune joueur de hockey de marquer un but comme ça, de vivre une expérience comme celle-là, dans un contexte surtout comme les Jeux dans ton pays, au Canada, en représentant ton pays. Puis il a dit, on n'a pas été capable d'emballer le paquet, comme on dit, avec une avance de 2-1 à la fin de la partie. Les Américains avaient amené le match en prolongation. Puis, écoute, c'était incroyable comment il y avait de la tension dans les gradins. Tout le monde était debout. Et évidemment, le but magique est arrivé, marqué par Sidney Crosby. C'est une rondelle récupérée le long de la rampe, là. Les gens qui veulent s'amuser à aller voir ça sur YouTube, là, c'est pas un grand classique, là. C'est le déclenchement de joie après qui a été un grand classique. Mais le but en tant que tel, là, c'est une rondelle récupérée par Crosby le long de la rampe. Puis je me souviens très bien, comme si c'était hier, qu'il m'avait dit dans l'entrevue d'après-match, il dit « J'ai juste tenté de placer la rondelle au filet et ça a fini par entrer. » Alors, je vais te faire entendre Crosby sur l'ambiance parce que il nous a parlé de l'ambiance qui avait dans la chambre des joueurs entre la prolongation et la fin de la troisième période. Voici Sidney Crosby.
It was really calm and confident. I mean, Scott Niedermayer was a great leader and probably a big part of that. But we had a lot of veteran guys that I remember just, they seemed really poised. And I think as a young guy, you know, you could really feed off of that. So I think obviously it happened quick and, kind of lost it there, lost the lead with 30 seconds left, so it's a quick turnaround, but I thought we turned the page pretty quick, and you know, you learn a lot from those situations, and just to see that veteran experience kind of take over and bring that sense of calm, it brought a young player like myself, you know, a lot of confidence, I think.
Il y avait des vétérans comme Niedermayer, il a nommé Niedermayer, mais il y avait aussi des gars comme Pronger, des gars très solides. Il a dit que c'était très calme dans la chambre, mais on sentait quand même une certaine confiance. Mmh. Et ça, là, plus tard dans la conversation, dans les bouts que vous n'avez pas entendus, Sidney Crosby dit, c'est un peu ce que ces gars-là nous ont transmis. Tu sais, il y avait une passation des pouvoirs dans cette période-là, en 2010, parce que tu avais les Niedermayer, les Pronger, et là, il y avait les Taze qui étaient tout jeunes, Crosby qui était encore très jeune en 2010. Alors, il y avait comme une transition qui se faisait dans cette équipe-là avec l'équipe du Canada. Il y avait Martin Brodeur qui avait laissé sa place au début du tournoi à Roberto Luongo. Alors, il y avait un changement de garde. Alors, c'était et Crosby nous a dit plus loin dans la conversation que cette victoire-là, il y a 10 ans maintenant, a été quelque chose de déterminant dans sa carrière parce qu'il dit, moi, j'ai traîné ça dans mon bagage, dans mon sac à dos, dans les matchs de finale de la Coupe Stanley que j'ai joué ensuite. Et bien sûr, pour l'autre médaille d'or olympique qu'il a gagnée à Sochi en 2014, parce que Jérémy, j'ai eu la chance d'être là avec Danny, cette fois-ci pour la télé, avec nos amis de Radio-Canada. Puis, je vais te dire une chose, le gars qui a marqué le but, qui a fait la différence, qui a permis au Canada de souffler en fin de troisième période contre la Suède, c'est encore Sidney Crosby. Alors, tu sais, c'est un joueur spécial, puis c'est un joueur qui, dans des moments comme ça, là, on l'écoute parler de ça aujourd'hui, là, puis il en parle avec tellement de passion, là, dans ses mots, dans ses phrases, dans son regard, il te ramène là. C'est ça qui est magique avec Sidney Crosby.
C'est ce qui rend le personnage aussi plus grand que nature, Sidney Crosby. On l'a vu marquer des buts importants. C'est on dit souvent un clutch player, mais surtout un gars, un gentleman et un gars travaillant sur la patinoire. Ça fait toute la différence. Et ça donne aussi la mentalité aux Pingouins de Pittsburgh. Parce que du côté des Pingouins, présentement, il y a des blessés, mais il n'y a personne qui abandonne. On est toujours là et on veut toujours essayer de gagner des matchs quand même.
Oui, puis c'est vraiment la marque de commerce de cette équipe-là. Premièrement, là, Jérémy, je pense que dans les dernières années, là, moi, j'ai pas vu d'équipe aussi affligée par les blessures que les Pingouins de Pittsburgh. Tu sais, là, à chaque année, là, eux, là, ils ont la moitié de l'équipe à l'infirmerie. Quand c'est pas Crosby, ce qui a été le cas cette année, c'est Malkin. Il y a toujours des joueurs clés qui disparaissent, mais tabarouette, ils s'en sortent. Puis à un moment donné, il arrive des Marino, des gars comme ça, il y a quelques années, Bonino. Tu sais, ils sortent des gars de, je dirais pas de nulle part, parce que ces dépisteurs-là là, font un sacré job. Et encore une fois, dans la conversation que j'ai eue avec Sidney Crosby, lui, il dit, une partie de nos joueurs clés dans notre organisation sont nos dépisteurs. Parce que des gars comme Gansel, des gars comme Ross, il a fallu que les dépisteurs des Pingouins les trouvent, ces joueurs-là, et leur fassent confiance et les repêchent, et les développent aussi. Alors ça, c'est une partie du succès des Pingouins de Pittsburgh. L'acquisition de Zucker est arrivée à un bon moment. Le vieux Jim Rutherford a bougé avant tout le monde. Il est allé chercher un joueur qui était quand même assez convoité. C'est pas un joueur de location sur lequel il restait un morceau de contrat, mais dans la conversation que j'ai eue avec Christopher Letang, tu sais, faut quand même lever notre chapeau sur les joueurs qui ont remplacé les nombreux joueurs clés des Pingouins, à commencer par Crosby, qui ont été blessés, parce que ces gars-là ont beaucoup de mérite, Jérémy. Ils ont maintenu l'équipe parmi les trois premières de la division métropolitaine. Et ça a permis, ultimement, à Jim Rutherford de dire, ben OK, on va donner un premier choix, on va donner en retour, puis on va aller chercher un bon joueur, parce que nos joueurs nous ont maintenus au top de notre division. Alors, le crédit leur revient, et c'est ce que j'ai discuté avec Christopher Letang de cette situation-là.
Des fois, quand les gens ont regardé nos blessures, ils vont se dire on va peut-être tomber trop loin des playoffs, on serait pas capable de remonter à pente, mais je te dirais que chaque gars qui a été perdu, il y a quelqu'un qui a step in puis qui a relevé le challenge d'avoir plus de temps de glace, de faire partie du power play, des choses comme ça. Donc c'est le fun de voir qu'on a autant de profondeur.
Chez Weber, avant le dernier match que vous avez joué contre le Canadien la veille, il avait dit à Montréal. Il dit même quand Sidney Crosby n'est pas là dans cette équipe-là, on dirait que la culture du capitaine est ancrée dans l'équipe. Il dit il n'est pas là, mais le travail se fait pareil. Est-ce que tu es d'accord avec lui?
Ben oui, je te dirais que tous les joueurs qui vont s'amener dans notre équipe, qui vont s'habiller dans notre chambre, ils n'ont pas le choix de suivre qu'est-ce que Sid Malkin ont décidé de commencer. Puis ça commence avec le respect de l'organisation, le respect des joueurs dans notre équipe, puis l'éthique de travail. Donc, je suis pas surpris que les gars suivent puis que ça va bien comme ça.
Oui, clairement, Martin. Puis, faut dire que c'est un groupe spécial. Ce qu'il y a à l'intérieur des Penguins de Pittsburgh, là, c'est un groupe extrêmement spécial.
Jérémy, je vais te dire une affaire. Là. Aujourd'hui, là, je pense que Danny en a parlé un petit peu plus tôt dans la soirée à Mario Langlois. Là. Il y a eu un entraînement très intense de 60 minutes. 60 minutes de gros job, là. Demain, les Pingouins, matin du match, là, ils n'iront pas sur la glace. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'ils étaient sur la job. Puis quand Christopher Letang dit il y a toujours quelqu'un qui rentre pour faire la job quand il y en a un qui est blessé, bien ça, c'est la qualité des grandes équipes. Puis là, je vais te faire une phrase bien, bien crue, là, bien, bien crue, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu rentres dans ce vestiaire-là, ça pue la confiance. Je te le dis, là.
C'est une bonne senteur, ça, Martin. C'est une bonne senteur, ça.
Tu rentres dans le vestiaire, tu sens que ces gars-là sont sur la job. Ils veulent gagner. L'organisation des Penguins de Pittsburgh veut gagner et prend les moyens pour le faire. Évidemment, quand tu gagnes la loterie Crosby, ça va bien. Mais c'est ce que tu fais par la suite parce que il y en a des clubs qui ont gagné la loterie McDavid. La loterie Galchenyuk, puis la loterie mets le nom que tu veux au bout de ça, là, la loterie Eichel, puis au bout de ça, il arrive rien ou il arrive pas grand-chose. Mais les Pingouins ont fait arriver des choses. Et Christopher Letang nous a dit dans la conversation, il dit, écoute, on rajeunit pas là, Crosby, Malkin, Letang, une couple de gars dans l'équipe, Holmqvist. Ils disent, on est des gars qui dépassent la trentaine maintenant. Alors, c'est pour ça que Jim Rutherford a mis sur la table un choix de première ronde et aussi un bon espoir pour aller chercher Jason Zucker pour jouer avec Sidney Crosby. On avait besoin d'un ailier sur le top 6. Alors, on va écouter Christopher Letang là-dessus.
Je ne sais pas combien d'organisations qui ont été aussi chanceuses qu'à la nôtre d'avoir un gars comme Sid Malkin. Je pense que les DG, ils se doivent de tout faire à chaque année pour gagner, pour être sûr de ne pas perdre des années du prime, comme on dit, de ces joueurs-là. Donc, je pense que Jimmy fait toujours de son mieux pour rendre l'équipe la plus forte possible, la plus compétitive possible. On est tous à 32. Gino est rendu à 33. Je te dirais que il en reste moins qu'il y en avait avant, mais on veut gagner. Il n'y a aucun objectif autre que de gagner la Coupe Stanley.
Martin, j'adore cette déclaration de Christopher Letang. Il faut maximiser le prime. Écoute, message à l'organisation du Canadien. T'en as un devant le filet, il faut que tu sois capable de maximiser le prime. Je pense que c'est ça qu'on fait chez les Pingouins, là.
Tu sais, Jérémy, à une certaine époque, chez le Canadien de Montréal, ça parlait comme ça.
Clairement.
Ça parlait comme ça, puis... Puis en plus de ça, ils avaient les moyens de leurs ambitions. Maintenant, c'est une autre affaire, mais écoute, vraiment, là, la passion qui se dégage de cette équipe-là, les Penguins de Pittsburgh, là, c'est vraiment, ça ne peut pas faire autrement qu'être contagieux. Puis je reviens à Crosby, là, il était dans une forme resplendissante. Lui, là, il a été blessé. Je pense qu'on sent que ça lui a manqué. Écoute, il a pris 20 minutes avec nous. 20 minutes, là, c'est à jaser de choses et d'autres. Quand les caméras se sont éteintes, les micros aussi, on s'est dit, écoute, il nous a montré sa vieille paire d'épaulettes là, qui date de l'Océanique de Rimouski. Il nous a raconté qu'il joue encore avec les mêmes épaulettes. Sorte de conversation, de sujet qu'on a abordé avec lui. On a parlé du français, puis il nous a rappelé que quand il est arrivé à Rimouski, les notions de français qu'il avait, il les avait appris un petit peu au début de son école primaire, son école secondaire, et tu connaissais juste des mots. Je n'étais pas capable de faire des phrases. Mais il dit, il y a des gars qui m'ont aidé dans l'équipe, puis il s'est intégré. Tu sais, c'est un gars qui met les deux mains là, à la pâte. Alors, il s'est intégré, il a appris le français. C'est juste dommage qu'à un moment donné, là, on l'a ridiculisé avec son accent, puis qu'à cause de ça, il est un peu gêné de donner des entrevues en français. Mais, tu sais, c'est quand même un gars qui a été un ambassadeur. Il a été un ambassadeur incroyable pour la LHJMQ.
OK, Martin, là, le temps file, puis on va arriver dans le vif du sujet. Hier, oui, pendant le match, toi et Danny, vous avez une conversation, je pense que c'est au deuxième entraque, à moi je me trompe. Vous avez parlé du nombre de dépisteurs présents et vous avez trouvé étrange une certaine situation. J'aimerais que tu nous relates ce que vous avez vu hier.
Bon, écoute, d'abord, là, il y avait des dépisteurs d'équipes qui représentaient des équipes qui vont vendre, les Devils de New Jersey, les Kings de Los Angeles. On sait que ces équipes-là ne sont pas nécessairement venues voir des joueurs du Canadien de Montréal. Ils sont venus voir des joueurs, des adversaires, les Bruins de Boston, parce que les Bruins font probablement affaire avec des équipes qui vont vendre à la date limite des échanges. Il y a les équipes qui achètent, c'est-à-dire les équipes qui sont sur le marché. Les Blues de Saint-Louis, qui suivent le Canadien assez régulièrement depuis les dernières semaines. Les Flames de Calgary, les Canucks de Vancouver, qu'on commence à voir un peu plus quand le Canadien joue autant à la maison que sur la route. Mais il y avait une équipe qui était très fortement représentée et qu'on n'avait pas vu beaucoup dernièrement. Les Lightning de Tampa Bay avaient délégué 3 recruteurs. Alors, quand tu en envoies un, c'est parce que tu vas avoir un rapport, tu vas avoir un classement sur les joueurs disponibles. Quand tu en envoies 2, là, généralement, tu vas avoir 2 paires de yeux pour voir probablement le même joueur ou des joueurs. Tu vas avoir 2 opinions qui vont se confronter, qui vont voir le même gars dans le même match, puis qui vont peut-être avoir des opinions différentes. Mais quand tu en envoies 3, ça, c'est pas un hasard. Ça, c'est parce que tu t'intéresses vraiment à quelqu'un en particulier, puis tu vas avoir l'heure juste. Tu vas avoir 3 personnes différentes qui vont voir le même gars. C'était pas un joueur des Bruins, parce que le Lightning est en compétition directe avec les Bruins. Le Lightning puis les Bruins transigeront pas ensemble avant la date limite des échanges. Ils veulent la même affaire, ils veulent la satanée Coupe Stanley. Puis ils vont être obligés de s'affronter peut-être dans les premières rondes des séries pour se rendre là. Alors, c'est le Canadien qu'on venait voir. Il y a quelques semaines, quand on est allé à Tampa Bay, on savait, Danny et moi, que une des choses que le Lightning voulait acquérir, c'est un joueur de centre. Ils ont un premier bon joueur de centre. Ils ont également un très bon joueur de centre qui s'appelle Cyril Lee et qui émerge de plus en plus. Mais pour avoir une bonne équipe, il faut qu'il soit solide au milieu. Et là, ils en chercheraient un autre pour avoir vraiment 3 joueurs de centre solides. Et ce gars-là qu'on cherche, on aimerait avoir un gars qui peut produire de l'offensive. Alors, écoute, c'est pas Philippe Danault parce que j'ai jamais entendu parler que Marc Bergevin était intéressé à échanger Philippe Danault. C'est pas Nick Suzuki non plus, parce que ça fitterait pas du tout dans ce que le Canadien essaie de faire. Puis c'est pas Nate Thompson, il est trop vieux. Alors, le joueur qu'on est probablement venu surveiller, c'est un gars qui est dans une situation contractuelle particulière avec le Canadien. Il s'appelle Max Domi. Et Max Domi correspond un peu au genre de définition de joueur de centre que le Lightning cherche. Puis, sur le point de vue contractuel, il n'est pas encore rendu à l'autonomie sans restriction, alors c'est pas un joueur de location. Mais si le Lightning va chercher Domi ou s'intéresse à Domi, ils vont devoir payer le prix. Et payer le prix pour le Lightning, c'est s'assurer peut-être aussi de signer Domi par la suite. Mm-hmm. Alors, si tu veux signer Domi, si tu es vraiment intéressé à Domi, c'est parce que tu veux le signer. Si tu veux le signer, il faut que tu libères un gros salaire. Ça veut dire que chez le Lightning de Tampa Bay, si on complétait une transaction comme ça avec le Canadien, il faudrait qu'un joueur avec un salaire assez appréciable puisse partir de Tampa Bay. Et ça, ben, le Canadien peut aménager ça parce qu'ils en ont de la place sur la masse salariale. Alors là, tu regardes un petit peu l'allure du Lightning. Ça sera pas Kucherov, ça sera pas Stamkos, ça sera pas Victor Hedman, ça sera pas McDonough. Alors, là, tu regardes chez les joueurs un peu plus jeunes et là, tout à coup, tu regardes, tu vois le nom de Yanni Gourde. Yanni Gourde qui a signé un contrat assez lucratif, merci, un peu plus de 5 millions, avec un bon nombre d'années. Lui, Jérémy, là, si tu veux t'améliorer au centre, puis si tu veux faire des vraies affaires avec une équipe, il faut t'en donner un bon. Alors, lui, c'est un des bons qui pourrait se retrouver sur la table.
Évidemment, on vous écoute demain pour le duel entre le Canadien et les Penguins de Pittsburgh. Merci beaucoup, Martin.
On est là à 18h30. Bye-bye.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous parlait en direct de Pittsburgh.